Voilà, bonjour à tous. On veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci pour la personne et l'œuvre de ton Fils, le Christ Jésus. Merci de révéler encore ton Fils dans nos cœurs. Merci de nous bousculer par ta parole, par ton esprit. Merci de nous instruire. Merci de réjouir simplement nos cœurs par le partage de ta parole. Amen. Voilà, c'est vrai que dimanche dernier, voilà, c'était un peu un petit quart d'heure d'impro, puisqu'il ne restait plus beaucoup de temps. J'aimerais continuer un thème démarré déjà il y a quelques semaines et que je n'avais pas terminé, où il était question de transformation. Un autre mot, hein, on dit métamorphose, l'écriture l'emploie plusieurs fois. On peut dire parfois, eh bien, tout simplement, sanctification. Là, on est plus dans un mot théologique, un mot qui a voilà, un contenu un peu différent, mais tout cela nous parle simplement de nous approcher de Dieu et puis d'être bousculé, transformé, métamorphosé, sanctifié au fur et à mesure qu'on le connaît. Tous ces mots, hein, transformé, transfiguré, métamorphosé, sanctifié, tout ça, c'est les conséquences de la délivrance, un autre mot théologique, mais de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui. Il y a des choses dans nos vies qui se font comme ça. Il y a des conversions, celle de l'apôtre Paul. Hein. Le Christ se révèle à lui, il tombe de cheval et puis il est saisi. Dans notre cas, je vois, j'ai ma troisième fille. C'est difficile pour elle de dater un jour de conversion parce que depuis tout petit, dans les camps chrétiens à Brest, et puis c'est une succession de découvertes de Dieu et il n'y a pas un moment forcément de bascule très net. Nos expériences sont toutes différentes. Dans cette transformation, cette transfiguration, j'aimerais prendre quelques textes avec vous. Tout d'abord dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, les versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparirent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » On n'a sans doute pas tous vécu des moments comme cela. Je pense que les 3 apôtres dont il est question dans ce récit vont être marqués à vie. Pierre en parlera dans ses épîtres, mais je me rappelle du jour où, ayant vu le Christ dans sa gloire, un jour notre transformation, notre sanctification sera complète. Nous le verrons tel qu'il est. Cette expérience de Christ, ce vécu de Christ à ce moment-là de sa vie, un jour nous le vivrons en plénitude. Un jour, nous serons transfigurés. Mais les épîtres nous disent, voilà, en attendant ce jour, il nous faut traverser parfois quelques moments délicats. Les transformations ne vont pas toujours d'elles-mêmes, mais souvent dans nos vies, c'est une succession d'expériences, voilà, plus profondes peut-être les unes que les autres, de rencontres avec le Christ, crucifié, ressuscité, glorifié à la droite du Père. Je dis souvent, là, pour moi, une des révélations les plus belles et les plus fortes, c'est de pouvoir avoir cette révélation, cette conviction, quelle a été l'œuvre et la personne de Jésus quand il était sur la croix. C'est le moment où le monde a basculé. Quelque chose a changé sur la terre et dans le ciel. Dans le ciel et sur la terre. C'est un moment qui a des conséquences encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'était aussi partagé dans les prières ce matin. Quand on traverse des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments d'épreuve, prendre le temps de contempler Christ sur la croix. J'ai souvent dans les moments les plus... tous les nœuds de ma vie, tous les moments de grande transformation, ça a toujours été pour moi une grande aide. Seigneur, tu as été crucifié, tu as souffert pour moi, tu souffres avec moi, tu es capable de comprendre ce que je vis. Et là, on peut rencontrer l'empathie, la compassion de Dieu, les entrailles de miséricorde de Dieu. La croix est le lieu spirituel dans les lieux célestes où je peux trouver quelque chose de fort dans ma relation avec Dieu. J'aimerais continuer avec un autre épisode de transformation, de transfiguration. C'est dans le livre de l'Exode, c'est un petit peu l'expérience de Moïse. Exode, chapitre 34, le verset 35. Bon, c'est tout ce temps où Moïse, très déçu de la première réception des tables de la loi, du veau d'or, est remonté sur la montagne, redescend, et puis quand il redescend de la montagne, il y a quelque chose d'extraordinaire, d'avoir rencontré Dieu. Son visage est tellement lumineux que pour Israël, ça leur fait peur. Et Moïse est obligé de mettre un voile pour que dans le face-à-face avec Israël, cela puisse avoir lieu. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, voyaient que la peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel, YHVH, avec ce tétagramme, ce Dieu qui est « Je suis ». Une expérience de Moïse, à chaque fois qu'il rentrait dans la présence de Dieu, quelque chose d'extraordinaire arrivait, qui était visible. Notre relation à Dieu peut changer notre relation à nous-mêmes et notre relation au monde. Je dis souvent, que ce soit dans ma carrière professionnelle ou d'autres, depuis que je crois en Jésus, ça a mis du temps. Mais il y a des craintes du monde, des hommes, des femmes, des êtres humains qui ont disparu. Si on est en relation avec Dieu, que ce soit des rois, des papes, des empereurs, des chefs d'entreprise, des pasteurs, des hommes de Dieu, ça m'a pris beaucoup de temps pour guérir mon être intérieur. Et ça m'arrivait pendant des années, rien que de... voir la vie spirituelle d'un pasteur, ça me faisait décompenser. Je me disais, mais quand je vois ce qu'il est, ce que je suis, le différentiel est... ça a écrasé. Il m'a fallu une dizaine d'années pour petit à petit sortir de toutes ces craintes, de toutes ces peurs, et de savoir qu'en Jésus-Christ, voilà, quelque chose est posé dans notre vie. Je poursuis avec un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Les versets 14 à 18. Il parlait des fils d'Israël. Ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et un jour, quand nous serons 100% dans la vie nouvelle, même notre corps sera transformé, transfiguré. Nous aurons un corps de résurrection. Dans la rencontre avec le Christ, jour après jour, heure après heure, mois après mois, expérience après expérience, quelque chose de nouveau naît en nous. Et quelque chose du rayonnement de Dieu vient rayonner en nous. L'évangélisation, le témoignage, ce n'est pas toujours le flot de parole, le débit de parole, vouloir assommer l'autre avec qui est Dieu, avec des versets bibliques, avec... C'est déjà manifester Christ en esprit, en vérité, au travers de notre corps, au travers de notre vie quotidienne, au travers de... être attirant, que le rayonnement de notre être, de notre visage, les gens se disent, là, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'autre. J'ai envie d'avoir, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de connaître. 2 Corinthiens 4, 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le premier qui est heureux de nous voir avec Christ, c'est le Père. C'est le réjoui de savoir que des hommes, des femmes, des enfants sont en relation, en communion avec lui. Et il a envie que ça illumine, que ça transparaisse. C'est l'apôtre Paul qui disait, je prie pour que Dieu illumine. Fasse briller la lumière, fasse quelque chose d'autre. Souvent, on n'a pas conscience forcément du témoignage que l'on rend à Christ simplement en étant parmi les hommes. Bon, sauf évidemment si on s'est levé, comme on dit, mauvais pied le matin, si on a une mauvaise poêle, si, etc., etc. Mais même au travers des épreuves, on peut toucher ceux qui sont autour de nous. Dans le cercle familial, social, amical, professionnel, il y a quelque chose de nouveau. On avait vu l'autre fois toutes les transformations dans la vie d'Abraham, d'Isaac, toutes ces rencontres avec Dieu. Je voulais démarrer ce matin avec vous, voir dans la vie de Jacob, toutes les transformations, les transfigurations que Dieu a fait. On prend un texte dans la Genèse, il a vécu plusieurs expériences. Certaines sont très marquantes. Une des premières qu'il a vécues, on avait déjà vu, comment il a récupéré le droit d'aînesse. J'avais pris un petit instrument avec moi. Tout le monde sait ce que c'est ? Un chausse-pied. Voilà, moi je l'utilise le dimanche matin. Comme ça, je suis quitte de me baisser. Jacob, dans sa famille, pour entrer dans le droit d'aînesse, dans la bénédiction, dans l'héritage, il a utilisé un chausse-pied. Bon, c'est pas qu'il a triché, mais enfin. Sa mère lui a donné un petit coup de main. L'Écriture nous dira qu'il avait envie de vivre, de recevoir un héritage, une bénédiction, quelque chose de différent. Peut-être une compétition. Il n'avait pas envie de le laisser à son frère, Ésaü. Et puis avec sa mère, ils ont pris un chausse-pied, puis il a été voir Jacob, et puis il s'est arrangé pour chipper, piquer. Prendre la bénédiction à la place de son frère qui lui n'était pas forcément intéressé. Il a dit qu'Ésaü, il aimait bien la bonne chair, il aimait bien la chasse, il aimait bien les choses terrestres. Jacob avait une autre motivation, il avait quelque chose d'autre. Il s'est dit, mais c'est mon frère qui va retirer la bénédiction, moi j'aimerais bien l'avoir pour moi. Et puis il va s'arranger pour... attraper la bénédiction. À cause de ça, il va y avoir trois combats dans sa vie. Il va devoir quitter son frère, il va devoir quitter son père, et puis à un moment donné, il va devoir être bousculé en lui-même. On a entendu une très belle parole prophétique dimanche dernier, où le Seigneur disait qu'il voulait nous bousculer, nous surprendre, continuer à faire un travail de fond, de nous emmener plus loin. Toute l'Église, toute la chrétienté, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà. Je pense que Dieu prépare le retour de Jésus et envie que les chrétiens avancent, grandissent, et puis passent d'expérience en expérience et comprennent aussi mieux l'Écriture. Genèse au chapitre 28, on va lire les versets 10 à 22. La Bible commence à vieillir. Genèse 28, les versets 10 à 22. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre. Son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi. Toutes les familles de la terre seront baignées en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté ce que je dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile à son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors... l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Une première expérience quand il s'en va de sa patrie, de sa fratrie. Il quitte son père, évidemment sa mère, son frère, pour vivre une vie d'aventure. Et puis en partant, Dieu lui donne un sceau, déjà une première bénédiction. Et puis il a un songe la nuit et il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et il dit, mais est-ce que ça ne sera pas ici la porte des cieux? Est-ce que cette expérience de la porte du ciel nous est habituelle? Est-ce que cette révélation du Christ Jésus, je suis la porte, vous pouvez entrer et sortir? Cette expérience de Jacob est universelle. Dieu nous ouvre la porte dans le Christ Jésus. Et nous avons un privilège extraordinaire. Ce n'est pas des anges qui montent et descendent, mais c'est une relation avec le Fils de Dieu. là où Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'était déjà un privilège pour Jacob que d'avoir une révélation aussi grande, aussi forte. C'est une révélation encore plus excellente, plus extraordinaire pour chacun d'entre nous. Au travers de cette échelle, cette porte ouverte sur le ciel, Dieu veut nous révéler son Fils, son unique. C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Et puis il prend ce caillou et puis il verse de l'huile, symbole aussi de quelque chose qui est rempli de l'Esprit Saint. Dieu nous ouvre la porte du ciel et en Jésus-Christ, Dieu nous remplit de son Esprit. Il verse sur nous de l'huile. Nous pouvons entrer dans cette bénédiction, dans cet héritage, presque dans ce droit d'aînesse maintenant qui est sur l'œuvre et la personne de Jésus. Tout cela nous est accessible en Jésus-Christ. J'ai toujours beaucoup aimé cette prière. Il fit un vœu. Hein. Si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant le voyage, s'il me donne du pain à manger, s'il me donne des habits, si je retourne en paix à la maison, alors l'Éternel sera mon Dieu. L'Écriture ne nous incite pas trop à faire plein de vœux, mais elle nous incite à faire des choix, à nous engager avec Dieu. Il y a une expérience extraordinaire que j'ai faite en rentrant du collège biblique, où là, ça fait 41 ans maintenant. Fin mars 1980, j'étais dans le train qui me ramenait du Danemark à Lorient. Et puis Jean-Marc raconte souvent, hein, entre étudiants, voilà, c'était à celui qui lirait le plus de chapitres par jour, donc tous les jours, pas mal de chapitres de l'Écriture à lire. Et puis je me suis mis à lire les chapitres du jour dans l'Écriture. Et là, j'ai reçu un texte, 41 ans après, qui me suit toujours et qui est toujours, et qui ressemble à cette prière. Est-ce que vous avez lu déjà la prière de Jaïbetz? C'est un tout petit texte dans plein de chronologies, dans plein de noms. J'aimerais le lire avec vous. C'est dans 2 Chroniques, au chapitre 4. Un chronique, excusez-moi, il faut que je vérifie. Un chronique, chapitre 4. Un texte découvert avec un prédicateur qui s'appelait Jean-Claude Chablot. Quoi, la prédication est, voilà, parfois peut nous ouvrir l'Écriture. Un chronique 4, 9 et 10. Jabet, ça veut dire celui qui a été engendré dans la souffrance. Donc un début de vie difficile, était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Comme on dit, certaines vies n'ont pas toutes les meilleures conditions d'émarrage. Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves dans le malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il y a 41 ans, j'ai reçu un texte qui ressemble à ces deux textes de bénédiction. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Quelles sont les prières que l'on ose faire? Les engagements que l'on ose faire avec Dieu? C'était déjà un pas vers le ciel extraordinaire pour Jacob. une révélation excellente. La nôtre est encore meilleure. Tout ce que ces hommes de Dieu ont vécu dans l'ancienne alliance, nous pouvons le vivre encore d'une manière différente, de manière plus profonde, plus riche. Parce que la garantie de l'alliance est encore est plus forte et plus excellente. Au travers de nos choix, de nos engagements avec le Christ Jésus, il y a quelque chose de la bénédiction, de l'héritage de Dieu, du droit d'aînesse. Quelque chose peut suivre notre vie sociale, familiale, personnelle, professionnelle, être accompagné par Dieu au quotidien. J'aimerais continuer avec un texte dans l'Épître aux Hébreux qui va nous parler de cet héritage en Christ. Hébreux, chapitre 1, les premiers versets. Cinq premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Dieu a établi le Christ Jésus, son Fils, son bien-aimé, héritier de toutes choses. Je suis, nous sommes l'héritage de Dieu. Et au travers de Jésus, un héritage nous est réservé dans les cieux qui est extraordinaire, bien plus grand que celui de Jacob, même si Abraham, Jacob, Isaac, chacun à son niveau a été béni. Mais au travers de l'alliance, au travers de l'héritage que Dieu nous réserve en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est plus profond, plus puissant. C'est un privilège. C'est aussi à nous de faire nos choix. On a lu dimanche dernier, puis l'autre fois, hein, ce sont les violents qui s'empare du royaume de Dieu. Bon, il ne s'agit pas tout le temps de trouver des techniques spirituelles pour ajuster la chaussure, ajuster la bénédiction, ajuster... Simplement être droit devant Dieu, avoir une bonne conscience devant Dieu. Jean, chapitre 10, des textes hein, qui sont connus, mais je le relis voilà, pour que chacun la conviction se fasse au travers de l'Écriture. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jacob a eu un privilège à son époque, c'est d'avoir une révélation de cette liaison terre-ciel, mais au travers des anges, des êtres voilà, qui vivent dans le ciel, mais qui ne sont pas toujours à côté de nous. Au travers de cette porte ouverte, le Christ peut descendre et être en relation avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et pendant toute notre vie. Où que nous soyons, quand nous le voulons, on peut fermer les yeux et ouvrir son cœur et son esprit au Christ Jésus. Après, chacun a des circonstances différentes. Il y a le métier où il faut se concentrer. Voilà, on n'a pas forcément le temps. J'ai souvent, moi, comme jardinier, voilà. Même en travaillant, voilà, je pouvais fermer les yeux et puis prier, être en relation avec Dieu, puis vivre ces temps de rencontre, ces temps de bénédiction. Jacob, avec cette révélation, va devoir partir. Et puis, pendant une vingtaine d'années, il va vivre une vie tout à fait normale, la vie d'un éleveur. Il va aimer une femme, il va vouloir se marier avec elle. Et puis, le chausse-pied ne va pas toujours marcher. Il n'y aura pas toujours de l'aide. Celui qui aimait parfois trouver des biais pour vivre va être confronté à son beau-père qui est aussi retors que lui. Il aime une jeune femme qui s'appelait Rachel. Et puis... À l'époque, je parle, il y avait des dots, en tous les cas, il fallait qu'il travaille 7 ans pour vivre avec elle. Et puis le soir du mariage, vous vous rappelez ce qui s'est passé ? C'était pas Rachel, c'était Léa. Son beau-père, Laban avait 2 filles, il y avait l'aînée, la plus jeune, il était amoureux de la plus jeune, et puis il a eu l'aînée. Finalement, voilà, l'histoire de Jacob. C'est pas forcément une histoire toujours facile non plus. Il aura 2 épouses, 2 servantes, 12 fils. 2 fils avec celle qu'il aimait, qui mourra en mettant au monde son 12e fils, Benjamin. Et pendant ce temps-là, il va élever des chèvres, des boucs, des animaux. 2 fois 20 ans. 2 fois 7 ans, plus 7 ans, enfin 20 ans en tout. Pendant 20 ans, il va mener une petite vie tranquille. Je vous raconterai la suite au prochain numéro. J'aime bien prendre mon temps, poser les choses. On verra la fois prochaine comment au bout de ces 20 ans, la transfiguration, la transformation, la métamorphose de Jacob va se faire dans des circonstances, voilà, peut-être parfois un peu plus difficiles. La suite au prochain numéro.